problème.
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoix. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Vous travaillez à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bonsoir à tous, auditeurs, auditrices, insoumis et insoumises de Radio Canu sur le 102.2 de la bande FM ou sur radiocanu.org. Il est 21h passé de 5-10 minutes, c'est l'émission Angle Mort donc, qui débute, émission de critique sociale. Et au menu de ce soir, j'en profite pour faire un petit coucou déjà aux copines de l'émission qui à la base avaient le projet de faire l'émission de ce soir, puis finalement ont eu un empêchement. Donc c'est encore moi qui m'y colle ce soir, mais avec grand plaisir. Donc au menu de ce soir, je vous ai concocté une petite émission sur la grève des mineurs britanniques de mars 1984 à mars 1985 à peu près. Grève qui a eu un grand retentissement en son temps et qui occupe encore l'histoire des mouvements sociaux. Hein. Donc qui a un grand retentissement, je disais, notamment par sa longévité, puisqu'elle a duré environ un an. Et qui a souvent été réduite à un affrontement idéologique entre Thatcher, qui était première ministre à l'époque, anglais, et les dirigeants du syndicat national des mineurs, et en particulier d'un dirigeant qui s'appelait Arthur Scargill. Et pourquoi parler de ces grèves? Eh bien, en fait, au départ, je voulais parler d'un roman qu'on m'a prêté, et j'en profite aussi pour remercier le généreux prêteur. Roman de David Peace qui s'appelle GB 1984, donc voilà, je vous laisse traduire ça en anglais. C'est un roman anglais, du coup, traduit de l'anglais, il était paru initialement en 2004. Puis il est paru en français aux alentours de 2006, je crois, dans la collection Rivage Noir. C'est un roman qui se présente comme une fiction fondée sur des événements réels, à savoir justement cette grève des mineurs de 1984-1985. Mais pour comprendre ce roman, en fait, ça nécessite quand même souvent d'avoir une connaissance au moins minimale des événements en question. Et du coup, bah, je vais commencer par présenter cette grève des mineurs en m'appuyant sur une source essentiellement, parce que j'ai pas eu le temps de plancher plus sur la question, à savoir un article de Noël Burgi et Jacques Leruez, qui était paru dans la Revue Française de Sciences Politiques en 1986, donc ça date un petit peu, c'est un article écrit quasi après les événements, quoi. Et notons en passant que Noël Burgi a publié récemment un livre collectif qui porte sur la crise en Grèce, un livre intitulé « La Grande Régression, la Grèce et l'avenir de l'Europe ». Je n'ai pas lu ce livre, mais ça m'a l'air tout à fait intéressant, vu la quatrième de couverture. Bon, une autre raison aussi de parler de la grève des mineurs en 84, c'est qu'il est sorti il y a peu un film dont je n'ai pas noté le titre d'ailleurs et que j'ai pas encore vu, mais qui traite de la solidarité qui s'exprimait entre un groupe LGBT, gay et lesbienne, et les mineurs en grève. Et donc je m'étais dit que c'était l'occasion aussi, enfin une raison de plus de revenir sur cette grève. Voilà, pour resituer un peu le contexte dans lequel prend cadre ce film. Et une grève par ailleurs importante, hein. À mon sens, un moment décisif, je pense, dans l'histoire du mouvement social, une défaite dont, à mon sens, on paye encore le prix. Donc mon exposé sera certainement un peu brouillon. J'ai pas eu le temps de devenir vraiment familier avec cette histoire et j'ai pas eu le temps de vraiment mettre en ordre les différents éléments en jeu. Mais voilà, c'est, j'espère que ça vous intéressera quand même. À notre habitude, on va commencer par un premier titre musical pour se mettre un peu dans l'ambiance. Donc je crois, si je me trompe pas, que j'ai dû placer le groupe Crass, groupe anarcho-punk anglais du début des années 80, enfin fin des années 70, début des années 80, qui avait joué d'ailleurs en soutien aux mineurs en grève en 84, qui était un peu la fin du groupe. Et donc je vais passer une version live de l'un de leurs titres les plus connus, à savoir Do They Owe Us a Living. Try to hit the limits, but can't. Can it promise trouble?
direct réplique au carbone 14, certifié authentique, mon femme sur cathartique a pris le maquis.
Voilà, donc l'écoute d'Angle Mort sur Radio Canu, émission de critique sociale. À l'instant, c'était un autre titre lié à nouveau à ce dont il est question ce soir, à savoir la grève des mineurs britanniques de mars 1984, qui a duré de mars 1984 à mars 1985, puisque c'était, si je ne m'abuse, Angelic Upstarts avec le titre One More Day, qui traite de ces événements. Donc pour commencer, on va revenir un petit peu sur les causes de cette grève. Donc les causes immédiates, hein, c'est le 6 mars 1984, lorsque la Direction nationale des charbonnages, qui est une entreprise nationalisée, annonce au syndicat des houillères un nouveau programme de fermeture depuis pour l'année budgétaire 84-85. Donc Thatcher, à ce moment-là, est chef du gouvernement et donc elle pousse bien évidemment dans le sens d'une réduction des déficits. Et donc ce programme prévoit 20 000 suppressions d'emplois sur 185 000, c'est quand même pas rien. La fermeture de 20 puits. Donc l'objectif étant de poursuivre la fermeture des puits, qui est en fait un peu plus ancienne déjà, mais qui est un processus qui dure déjà depuis quelques années. Là, en fermant les puits d'abord les moins rentables entre guillemets économiquement, et avec pour objectif de réduire les déficits des houillères. Donc ce qui nous emmène sur des causes un peu plus structurelles, un peu plus de long terme, donc une cause économique déjà, donc on est dans une situation de réduction des besoins britanniques en charbon et de réduction des débouchés vers l'extérieur du pays. Donc notons que contrairement à ce qui se passe en France à ce moment-là, on ne peut pas observer d'extinction des réserves en charbon, hein, on découvre même des gisements nouveaux. Et du coup, depuis plusieurs années, ce qu'on privilégie, surtout en Angleterre, c'est un transfert sur des sites mieux équipés, plus productifs, pour rendre le charbon britannique plus concurrentiel, on va dire. Et aussi avec cette idée au départ, hein, d'améliorer les conditions de travail dans les premiers plans des années 70. Qui sont menées notamment par les travaillistes à ce moment-là. Donc on observe en fait dans ces années une augmentation importante de la productivité des mines de charbon, ce qui n'empêche pas en fait le secteur des houillères britanniques d'être déficitaire. Et face à cette situation économique, le syndicat principal, enfin le syndicat en fait des mineurs anglais, qui s'appelle le National Union of Mine Workers, NUM, dénonce notamment les contrats d'importation de charbon étranger, hein, par l'industrie britannique, et donc souligne le caractère déloyal de ces importations, parce que le charbon polonais par exemple est largement subventionné, le charbon sud-africain est produit par une main d'œuvre sous-payé, le charbon australien ou américain est extrait à ciel ouvert, donc là aussi ça coûte beaucoup moins cher, etc. Donc un des enjeux de la grève en fait c'est le rétablissement des subventions au charbon britannique qui avait été supprimé peu avant, en 1983 par Thatcher. Le syndicat demande aussi qu'aucun puits ne soit fermé sauf en cas d'épuisement du gisement. Donc il y a aussi des causes plus sociales, hein, en conflit, enfin en tout cas un contexte social qu'il faut avoir en tête, à savoir qu'il y a donc on a parlé de transfert de production vers des sites mieux équipés, et donc ça se déroule pas au sein d'un même bassin, mais bien d'un bassin à l'autre. Donc ce qui va attiser les tensions entre d'un côté des bassins très militants, qui sont notamment le sud du Pays de Galles, l'Écosse, il faut avoir ça en tête aussi pour comprendre les velléités d'indépendance, le Yorkshire, voilà, qui sont des régions de mono-industrie qui ont déjà été fortement touchées par la crise de la sidérurgie et de la métallurgie lourde. Donc d'un côté ces bassins très militants, et de l'autre côté des bassins plus mesurés, qui sont souvent les bassins plus récents, qui ont été modernisés entre guillemets, et qui se situent notamment au centre de l'Angleterre. Et on a notamment dans le Nottinghamshire. Donc on a eu plusieurs plans de transfert qui ont longtemps été acceptés par les dirigeants les plus mous de la NUM, le National Union of Mine Workers, qui ont commencé à être dénoncés par certains plus à gauche au sein de ce syndicat, qui reflétaient un sentiment quand même de traitement inégal, d'injustice. Des tensions qui justement sont bien restituées, hein, par le livre de David Peace que j'ai introduit tout à l'heure. Sentiment d'injustice renforcé avec la réintroduction du salaire au rendement à partir de 1978. C'est un mode de paiement qui avait été abandonné en 66, après de longues négociations, et il est réintroduit, ce qui crée des grandes disparités de revenus d'un puits à l'autre, disparités qui du coup sont liées moins aux efforts des travailleurs qu'à la sophistication de l'équipement. Et donc des causes aussi politiques. Une perte d'importance du charbon dans l'économie, on l'a vu, hein, mais qui s'accompagne de plantes volontaires qui sont des succès. Il y a beaucoup de gens, de mineurs qui en profitent pour partir, et on les comprend bien. Et du coup, c'est vrai que le syndicat voit ça d'un mauvais œil parce que ça réduit leur nombre de syndiqués et ça a pour conséquence un déclin de son influence dans le mouvement syndical et dans le parti travailliste. Il faut avoir à l'esprit quand même que la NUM reste aussi sur deux victoires retentissantes, hein, en 1972 et en 1974, grâce notamment au piquet de grève volant. C'était une stratégie mise en place par Arthur Scargill, qui est alors un dirigeant local du Yorkshire, qui représente la gauche du syndicat, et qui, suite à ces victoires, va jouir d'une réputation d'invincibilité et prend la tête du syndicat en 1981. Bon voilà, mais ceci dit, qu'est-ce qui change entre 72, 74 et 84, c'est que le pouvoir a pris acte quand même de la facilité justement avec laquelle un petit groupe de travailleurs disposant d'un monopole de production et du quasi-monopole d'approvisionnement des centrales électriques a pu bloquer une économie. Donc elle s'est depuis plusieurs années déjà engagée dans une diversification des sources d'approvisionnement, développe l'électricité nucléaire, les centrales thermiques à pétrole ou mixtes, constitue des stocks sur les sites des centrales, fait des contrats d'importation aussi, on a vu, c'est dénoncé par les syndicats, pour avoir du charbon étranger. Et donc on se retrouve dans une situation où il y a des stocks de charbon très élevés qui vont constituer un atout stratégique majeur en fait pour le gouvernement durant la grève. Certains d'ailleurs y voient une politique délibérée. On s'est mis un peu à l'abri d'une nouvelle grève des mineurs. Autre élément qu'il faut avoir en tête qui s'est passé avant les grèves, c'est la mise en place par le gouvernement conservateur d'une législation antisyndicale proprement scélérate. Comment ils ont fait, parce qu'il y avait déjà eu des tentatives avant, mais eux ils ont procédé par petits paquets, hein, on connaît bien ça, donc on passe une première petite loi, une deuxième après, voilà, on va pas amener d'un coup une réforme de la législation du droit syndical, mais on va faire par petits paquets. Donc ça a été vécu quand même comme une grosse provocation par les dirigeants de la NUM, et c'est une des autres raisons du conflit. Et donc le moment dans lequel est passé ce nouveau programme par la Direction nationale des charbonnages, il est bien pensé. Hein, en fait, Thatcher, quand elle arrive au pouvoir, dans un premier temps, elle ménage les mineurs, d'autant qu'on l'a dit, ils jouissent à ce moment-là d'une réputation d'invincibilité. Et puis le rapport de force va devenir un peu plus favorable. Et donc, en gros, les provocations que va lancer le gouvernement, parce que c'est lui qui incite quand même la direction du charbonnage à passer ce nouveau plan, surviennent à la fin de l'hiver, c'est-à-dire que lorsque les besoins en charbon diminuent, et assez tôt pour que les effets d'une grève qui ont commencé avant, avec pour enjeu les salaires, ne se fassent pas trop sentir sur les stocks. Parce qu'en fait, depuis 83, il y a déjà une grève des heures supplémentaires qui a débuté, justement sur ces questions de salaire, de rendement, etc. Donc on le sait, pour Thatcher, hein, l'idée c'est de prendre une revanche sur les mineurs et de les mater, avec l'idée qu'en les matant, après, on aurait la paix. Et là, pour le coup, on peut dire qu'elle a plutôt eu raison. On se fait une petite pause avant de continuer la présentation de ces grèves de 84.
Invisible hands are held, golden streamers building in the night. Alone, the possibilities are enormous. Step outside, and parasites deprived of the wind wait to suck on time.
I could be a soldier, go out there and fight to save this land. Be a people soldier. Paramilitary gun in hand. I won't be a soldier. I won't take no orders from no one. Stop the fucking armies. Killing isn't my idea of fun. And they wanna waste their life. They wanna waste.
Allez, toujours écoute d'Angle Mort sur Radio Canu avec une émission ce soir consacrée à la grève des mineurs de 1984, la grève des mineurs anglais. Donc j'ai présenté un peu rapidement et de manière brouillonne un peu le contexte hein, et les causes à la fois économiques, sociales, politiques de la mobilisation et du conflit. Donc on peut distinguer après dans le conflit trois grandes phases. Hein. Il y a une phase de mobilisation lente mais majoritaire des mineurs à partir de mars 1984. Qui aboutit rapidement à des premiers affrontements très violents avec la police, notamment à Orgrève, la police qui n'est pas allée de main morte du tout, et rappelons qu'il y a eu quelques morts lors de ce conflit, et qui va donc cette première phase jusqu'à l'échec des premières négociations autour de mi-juin 1984. Notons aussi que dans cette première phase, en fait, Arthur Scargill, donc le leader de la NUM, refusait hein, catégoriquement toute consultation nationale pour rendre officielle la grève. C'est-à-dire que lui, il s'est pas embarrassé. Normalement, dans la législation en place, il fallait avoir, je crois, 55%. Il fallait organiser une consultation nationale avant de lancer une grève nationale. Il a refusé de faire ça avec des arguments qu'on peut quand même largement entendre, à savoir qu'il disait on va pas demander de voter pour ou contre le licenciement de camarades, parce que ça revenait quand même à ça. Voilà. Après, certains y ont vu quand même une erreur stratégique parce que ça a permis quand même au pouvoir de lancer des procédures judiciaires contre le syndicat, etc. Et au fond, a priori, au début du lancement du conflit, une nette majorité des mineurs est favorable à la grève. Donc, ça aurait peut-être permis du coup d'utiliser ça comme un argument. Voilà, bon bref, voilà pour la première phase. Après, il y a une deuxième phase de relatif statu quo où le gouvernement, la direction des charbonnages et les mineurs non grévistes vont renforcer peu à peu leur position. Tandis que de leur côté, les grévistes ne vont pas réussir à s'allier avec les secteurs avec lesquels ils voudraient s'allier, notamment donc un autre syndicat des houillères qui est le syndicat des agents de sécurité et Porion. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, le NACOTS. Et des tentatives aussi de s'allier avec les syndicats de la sidérurgie, etc., mais qui échouent. Et c'est une phase qui va s'achever avec le refus donc du syndicat des mineurs, la NUM, de s'associer au compromis qui va être conclu entre la direction des charbonnages et ce syndicat des porions et agents de sécurité. Voilà, donc il y a un accord qui est signé entre ce syndicat et la direction, qui du coup va, vu que la NUM refuse de le signer, va isoler la NUM. Et du coup, ce qui nous emmène dans la phase finale, une phase de démobilisation progressive des mineurs, donc ça après octobre, ceci dit ça a duré quand même entre octobre et mars, donc ça montre bien toute la ténacité et la fierté de la classe ouvrière anglaise. Donc je disais démobilisation progressive, découragement progressif, durcissement des positions de la direction du charbonnage, du coup qui en profite hein, dans ce nouveau rapport de force pour renforcer ses positions, au moment où justement du coup la NUM va commencer à vouloir lâcher du lest, on s'entend bien qu'ils vont pas réussir à obtenir ce qu'ils demandent, du coup la direction des charbonnages en a profité pour eux radicaliser leurs positions. Et ce qui amène jusqu'en mars 85, donc avec la fin du mouvement, sans qu'aucune des revendications de la NUM n'ait été satisfaite, donc un échec complet. Donc quelques raisons du retournement du rapport de force. Donc j'ai dit, hein, les mineurs ils ont été très particulièrement combatifs, tenaces. On l'a vu déjà, les stocks de charbon jouent en faveur du gouvernement et de la direction, hein, parce qu'ils sont élevés, donc pour bloquer l'économie, c'était aussi compliqué. On l'a vu, ils n'ont pas réussi à obtenir les soutiens des alliés qu'ils cherchaient, malgré quand même un moment une grève des dockers. Et ça, pour comprendre cette absence de soutien, il faudrait sans doute se pencher plus sur l'histoire du mouvement syndical et du parti travailliste. Alors l'article que je citais, hein, sur lequel je m'appuie, y revient, mais là moi je serais incapable de vous dire pourquoi à ce moment-là, dans le parti travailliste et le mouvement syndical, les alliances n'ont pas été possibles. Des raisons politiques de lutte de tendance, il y a aussi sans doute la volonté de ne pas être associé à la NUM qui apparaît comme des durs de durs à ce moment-là, qui sont très décriés dans la presse, donc la presse a joué son rôle habituel. de casseurs de grève. Il y a eu forcément aussi, pour comprendre le rapport de force qui s'est joué, bah, le recours à l'intimidation policière, des actions en justice contre le syndicat. Ça, c'est très bien relaté dans le livre, donc dans le roman de David Peace. Notons aussi que donc, plusieurs tentatives de négociation ont eu lieu, qui à chaque fois, on pensait que ça pouvait aboutir à un compromis. Hein. On voit que les mineurs sont quand même en grève, attendent ce compromis. Il y a toujours quelque chose qui se passe au dernier moment qui a fait capoter ces négociations. On sait aujourd'hui, a priori, hein, que Thatcher est intervenu à plusieurs reprises pour faire capoter les compromis entre la direction et le syndicat, c'est-à-dire pour radicaliser les positions de la direction des charbonnages, parce que voilà, les conservateurs qu'elle représente veulent à ce moment-là mater le syndicat des mineurs et ne leur laisser aucune porte de sortie. Bon, aussi des fois dans le mouvement, hein, le vent a semblé tourner en faveur des mineurs, c'est-à-dire que les dockers sont à un moment rentrés en grève. Le NACODS que j'évoquais, le syndicat des agents de sécurité et compagnie, a failli aussi à un moment rentrer en grève. Donc il y a eu des moments où ça s'est joué à pas forcément grand-chose, où il y a eu quelques frissons quand même, hein, enfin des gros frissons du côté des gouvernants. Mais donc voilà, les négociations ont généralement capoté. Alors des fois, on va dire que Scargill a raté des occasions. Donc le dirigeant de la NUM, souvent il y a des discours, il a raté des occasions. Bon, ceci dit, souvent voilà, les points de négociation, il y avait quand même des points sur lesquels il était difficile de négocier, à savoir notamment la question de quels sont les critères pour justifier une fermeture des puits. Et la direction des charbonnages voulait dire que le critère, c'est le critère économique entre guillemets, c'est-à-dire quand un puits n'est pas rentable, quand il ne fait pas assez de bénéfices, on est légitime à le fermer. Et c'est là-dessus que les négociations ont souvent échoué, parce que le syndicat, au départ, voulait dire qu'une fermeture ne pouvait être justifiée que s'il y avait tarissement du gisement. Après, ils étaient plus sur une position de dire quand même prendre en compte les coûts sociaux de la fermeture, hein, c'est que ça implique en termes de disparition des communautés de travailleurs. Voilà. Donc voilà, dire que c'est un refus intransigeant ou une obstination du leader qui voulait à tout prix sa victoire personnelle, ça serait un peu simpliste. Il y avait quand même des enjeux importants qui faisaient qu'il était difficile pour eux de lâcher prise, et que s'ils avaient lâché prise, ça aurait été surtout pour sauver la face des dirigeants, mais au final, ça aurait pas forcément été une bonne chose pour les mineurs en grève, pour la situation. Bon, bref, donc le rapport de force tourne progressivement en faveur de la direction. Et à ce moment-là, la NUM tente donc de revoir un peu ses positions, mais c'est trop tard. Le gouvernement veut laisser aucune porte de sortie honorable à Scargill. Au même moment, les fonds du syndicat sont séquestrés, hein, parce que tout le long du conflit, il y a des procédures judiciaires contre le syndicat. Une campagne de reprise du travail est lancée. Et donc progressivement, en dépit de la combativité des mineurs grévistes, la barre symbolique des 50% de mineurs qui ont repris le travail est finalement franchie. Ce qui du coup vraiment accélère la défaite, la fin du mouvement. Défaite qui a eu un impact certainement profond sur le mouvement ouvrier anglais et sans doute international, hein, puisque les mineurs anglais, c'était quand même un lieu de résistance contre le développement d'un capitalisme en passe à ce moment-là d'être renouvelé selon une philosophie néolibérale qui a comme mot d'ordre la flexibilité des travailleurs, les cercles de qualité en lieu et place des syndicats, etc. Donc ce lieu de résistance a alors sauté. La classe ouvrière anglaise en est ressortie sans doute d'autant plus abattue, et divisée. Et ça, justement, le roman de David Peace le montre bien, ces divisions qui se créent à l'intérieur de la classe ouvrière entre les grévistes, les jaunes, ceux qui étaient grévistes au départ puis qui finalement deviennent jaunes, etc. Enfin, il y a vraiment des clivages qui vont après durer dans les communautés, hein, on ne va pas oublier. Et au final, donc, c'est au sein des organisations de gauche, c'est du coup les modérés et voire ceux qui sont clairement à droite de la gauche qui vont prendre le dessus sur la gauche un peu plus radicale, ce qui va donc accélérer le processus de conversion des organisations de gauche aux politiques des droites, processus qu'on connaît bien aujourd'hui, si on veut dire. Puisqu'on est en plein dedans. Voilà, nouvelle pause, et puis après, je m'arrête un peu plus spécifiquement sur le livre de David Peace, je voulais en lire quelques extraits. Donc, Angle Mort, j'espère que vous suivez. Et petite pause. Mmh.
government had an idea and Parliament made it law. Seems like it's illegal to fight for the union anymore. Oh, which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Join a picket line, but together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. I said, go on, boys, or you're going to jail. Oh, which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? It's hard to explain to a crying child why her daddy can't go back. And the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, sod you, Jack. Oh, which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Much more than a union law to knock the fight out of a working man. Oh, which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Allez, à l'instant, c'était Billy Bragg avec Which Side Are You On, chanson à nouveau. En hommage aux mineurs britanniques en grève en 1984 et 1985. Et puis je vais laisser en fond, en espérant que ça perturbe pas trop l'écoute de ce que je raconte, la version de à mince trou de mémoire, et puis vu que je l'ai pas noté sur le papier, d'un autre groupe, un groupe américain. Il y en a beaucoup, vous me direz. Bon, groupe de folk irlandais américain très connu dont là j'ai oublié le nom. Donc je voulais parler maintenant un peu plus spécifiquement de ce roman de David Peace, GB84, hein, GB 84. Donc un roman, donc une fiction que je disais, qui néanmoins relate des, enfin est fondée sur des événements réels. Un roman qui est construit sur un dispositif de polyphonie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages, on passe d'un personnage à l'autre, les chapitres se succèdent de manière chronologique, on passe d'un personnage à l'autre dans chaque chapitre. Dispositif qui est très intéressant parce que ça permet de montrer le changement historique en train de se faire, comment tel glissement qui se joue sur telle scène va avoir un impact sur d'autres personnages, parce que les personnages sont un peu en interdépendance, et en même temps ça montre bien comment c'est aussi une interdépendance des fois toute relative, parce que les différents personnages ne vivent pas les événements du tout de la même manière, hein, selon que c'est des mineurs en grève, selon que c'est un dirigeant du syndicat la NUM, selon que c'est l'homme de main de Thatcher, etc. Mais bon, ils sont quand même sur cette scène en interrelation, avec quelques personnages qui sont un peu plus loin des événements, mais voilà, qui ont quand même toujours ce lien. Avec la grève et l'action du pouvoir pour la mater. Bon, ceci dit, avec ce principe de polyphonie, il faut quand même une bonne cinquantaine de pages. Enfin, moi, il m'a fallu une bonne cinquantaine de pages pour comprendre un peu qui est qui. Hein. Voilà. Bon, mais les personnages occupent du coup plusieurs positions. On a deux mineurs en grève qu'on va suivre alternativement. Et donc, leur récit ici parle... quand même très bien, hein, qui a participé à des mouvements de grève ou qui a été dans la famille de gens qui participaient à des mouvements de grève, ça leur parlera très bien, hein, des difficultés financières, tabassage par la police, intimidation, les meetings qui vont redonner la pêche, le fait d'être très attentif aux actualités, surtout vers la fin du mouvement, quand on n'a plus bien grand chose à faire, on regarde les actualités de la journée pour voir s'il y a quelque chose qui va bouger, ce que ça peut générer aussi en termes de crise familiale, il y a un des mineurs, bon, son épouse va le quitter, etc. Enfin bon, c'est très très bien montré, ça. Enfin, moi j'étais vraiment plongé dedans. C'est, voilà. On a un autre personnage qui va être donc un dirigeant de la NUM, c'est pas Scargill, hein, c'est un autre. Alors je sais plus, j'ai pas vérifié, mais je crois que il occupe le poste de trésorier. Bref. C'est un personnage fictif, hein, mais du coup, à travers lui, on voit l'intérieur du syndicat à ce moment-là, les luttes politiques entre les différents courants, la paranoïa. Paranoïa qui est pour partie aussi justifiée parce que de fait ils sont écoutés et voilà, enfin surveillés de très près. On voit la personnalité de Scargill aussi, ce que ça fait sur les événements, les stratégies pour conserver la main sur la trésorerie du syndicat contre les tentatives du gouvernement de nommer un administrateur judiciaire. Donc les tentatives de trouver des sources de financement aussi auprès d'alliés d'autres pays comme les Libyens, etc. Voilà, donc il y a tout ce qui se passe à l'intérieur de la NUM pendant ce moment-là. Un autre personnage, c'est on va dire une sorte donc d'homme de main de Thatcher, hein, celui qui va organiser la lutte contre la grève, souvent avec des actions un peu en sous-main, hein, donc il va par exemple organiser les mineurs non grévistes dans leur procédure judiciaire contre leur syndicat à la NUM, et il va organiser les campagnes de presse contre les dirigeants de la NUM, etc. Donc c'est un personnage qui est appelé dans ce roman le Juif, et qui est un personnage assez complexe parce qu'à la fois il est très 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 conservateur, il incarne la ligne dure des conservateurs qui veut vraiment mater les syndicats une bonne fois pour toutes pour qu'enfin triomphe le capitalisme, et à la fois ce qu'on voit bien c'est que il est méprisé par la bourgeoisie, par la haute, quoi, parce qu'il est juif, et donc c'est un personnage complexe, un peu double. Et on a toute une série de personnages qui sont plutôt dans l'ombre, donc le garde du corps de cet homme de main, qui est plus ou moins barbouze, enfin voilà, il y a des barbouzes, il y a quelqu'un qui fait des écoutes, un mec qui est plutôt une sorte de criminel, qui fait quelques piges pour les... Voilà, donc ça nous permet, même si des fois c'est un peu éloigné ça peut paraître un peu éloigné du mouvement de grève en tant que tel, hein, ça nous permet quand même de montrer le pouvoir dans ces coups bas, quoi. Et montrer un peu ce que les médias justement vont pas montrer, c'est-à-dire comment le pouvoir peut être capable d'intimidation, d'écoute téléphonique, de dissimulation de preuves, par élimination de personnes employées. Et puis on voit aussi très bien dans ce livre la presse aux ordres. Voilà, donc c'est un roman noir, sombre. L'écriture est très directe, enfin c'est des phrases très courtes. Et souvent tout est dans le suggéré. Donc à la fois ça peut capter l'attention, à la fois moi je sais que ça a rendu des fois la lecture très laborieuse, hein. Je dois avouer que j'ai pas toujours tout compris. Des fois même j'étais un peu agacé d'attendre le moment où ça me semblait que ça s'éclairerait, puis finalement ce moment n'arrive jamais. Mais bon, c'est un livre quand même très prenant et avec des moments très forts, notamment donc les récits de mineurs jour après jour dans leur grève. Mais aussi, voilà, par exemple, quand le personnage du juif passe d'un état confiant, triomphant, puis va être soudainement pris d'une angoisse parce qu'un autre syndicat menace de rejoindre les mineurs en grève, puis à nouveau, il va être sûr de la victoire prochaine, et à nouveau, il va être repris, voilà, le moment de frayeur. Donc du coup, ça montre quand même un peu la fragilité du pouvoir. Et je le disais, ces méthodes les moins avouables. Et au final, si on ressort quand même... On ne peut pas dire qu'on ressorte ce livre très optimiste. C'est un récit qui indique bien, je trouve, quand même la nécessité de refonder des formes de solidarité syndicale ou autre, histoire d'inverser quelque peu le rapport de force. On voit quand même qu'il y a un rapport de force qui s'appuie du côté des mineurs beaucoup sur l'existence de solidarité au sein de la communauté, d'entraide et l'existence de caisses de grève syndicale, quoi, qui va permettre aux mineurs de tenir pendant une année. Ça se fait pas tout seul. Voilà, donc ça c'est pour la présentation du livre. On refait une brève pause musicale que je vais entrecouper de de petites lectures d'extraits. Donc ça sera des extraits, en fait, je disais, qui en suivent, notamment deux mineurs en grève alternativement. Donc tous les extraits que je vais lire seront pris de ces, du récit de ces deux mineurs en grève.
Tu cherches tes problèmes.
Compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar.
84e jour.
A la huelga, madre, yo voy también. A la huelga,
si je perds la ligne. Pardon, un flic par mineur, un mineur par flic. Grosse bousculade. On pousse, pousse, pousse. Pousse, pousse, pousse les flics sur d'Iran qui tiennent. On insiste, 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 insiste. Tout le monde crie. Jaune, 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 jaune. Quelques pierres passent. Main levée, veste levée, bouclier levé. Une brique arrive, les camions entrent, les gens tombent, les gens disparaissent, les gens ne savent plus où ils sont. On me tire en arrière, je bascule en arrière, on me redresse, me relève, s'équisse. Ils secouent la tête, on y retourne. 5 minutes plus tard, un autre groupe de camions s'engage dans la rue. On pousse, 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 on insiste, 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 insiste. Jaune, 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 nouvelle pierre, brique. Camion à l'intérieur. Porte fermée, les rangs se dispersent, des brigades de 6 flics chargent, foncent dans le tas, on pousse, 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 casque bleu, visière baissée, bouclier court, bouclier rond, matraque, coup de deux côtés. Les brigades font le plus grand nombre possible de prisonniers, les capturent violemment par les cheveux, par la gorge, par les couilles, chaos, putain de bordel de chaos. Quelqu'un lance une grenade fumigène, des pétards, éclairs, explosions, fumée rouge partout. Puis les putains de saloperies de chevaux arrivent, la première fois que je les vois de près. Par groupe de 6, visière baissée, matraque brandie, tuerait s'ils le pouvaient, et ils le peuvent, ils pourraient, nom de Dieu. On fuit, on se disperse, la moitié dans le bois, la moitié vers le sommet de la colline, dans les prés, à découvert. Les gars s'arrêtent et ramassent des bâtons, des pierres, des poteaux, tout ce qu'ils peuvent, je ne m'arrête pas. Les chevaux ne s'arrêtent pas davantage, droit dans les prés, à notre poursuite, à découvert. Brigade derrière les chevaux, des transits derrière les brigades, sous le ciel bleu. Dans les prés verts, merde, je continue de courir, ne m'arrête que lorsque j'arrive près d'Asda, qu'au moment où j'entends le martèlement. Ils frappent leurs boucliers avec leur matraque, tandis que les chevaux s'éloignent au trot et que les camions s'en vont, nous laissent le sang, les corps, les enterrements. Deuxième jour. La presse a dit plus tard qu'on avait des bouteilles, des briques, des catapultes, des fusils à air comprimé, qu'on tirait des plombs. Menteur, putain de salaud de menteur. On avait des putains de mottes de terre, voilà ce qu'on avait. Oui, on a cassé des branches pour construire des barricades destinées à arrêter les jaunes. On l'a fait, c'est vrai. On a abattu des herbes dans Maltby Wood. Mais les grilles montées à l'avant de leurs camionnettes ont écarté ces branches comme si elles n'existaient pas, comme s'il n'y avait rien. Et ils ne se sont pas arrêtés. On fonçait droit sur nous, pas de possibilité de repli, pas de cachette. Deux groupes des brigades anti-émeutes sont sortis du bois, d'un côté et de l'autre de la route. Nous ont coincés dans un mouvement de tenaille, si c'est ce qu'on dit. Coup de matraque sur les boucliers, aboiement des chiens, effrayant. Foutrement effrayant. Pas de possibilité de repli. Seulement tombé sous les coups, exactement comme la semaine dernière à Silverwood. Même comédie, plus d'arrestations. Seulement des assauts. De Folcoats, anorak, parka, casquette en écharpe, bottes en caoutchouc, brodequins, chaussures ordinaires, c'est tout ce qu'on a. Ça ne peut pas nous sauver, nous permettre de leur échapper. Le gars qui est derrière moi tombe, violemment, bouclier en perspex sur la nuque. Matraque sur le crâne, j'entends l'os craquer, je l'entends hurler, je l'entends gémir, tombe violemment à terre et reste à terre. Je l'entends répéter, je l'entends murmurer, aidez-moi, à l'aide. Qui c'est moi, on le prend dans nos bras, on l'aide à se relever, poussière est boucolée sur son visage par son sang. Sang sur nos duffel coats, sur nos anoraks, sur nos parkas, sur nos casquettes et nos écharpes, sur nos bottes en caoutchouc, nos brodequins, nos chaussures ordinaires. Kiss, moi et d'autres gars, on attache des mouchoirs les uns aux autres pour panser son crâne. Je lève la tête, les flics immobiles nous regardent derrière leur bouclier. Il a besoin d'une ambulance, je dis. Il regarde le gars à terre dans une mare de sang, il lui crache dessus. Ils se foutent de sa gueule. On espère que ce con va mourir, disent-ils. On espère qu'il va mourir, bordel de Dieu. Ils ne répéteront pas ça, je pense. Pas à Martin Daly. Mais ils s'en vont, nous laissent reculer, nous regrouper, nous préparer à regagner le village. On ne les intéresse plus pour le moment. Pete installe le gars sur la banquette arrière d'une voiture où il y a deux autres types. Un type avec un bras cassé, un type avec trois doigts cassés. Pete dit qu'ils ont tabassé Kevin Barron. C'est le député de Roser Valley, notre député. Pete les envoie tous à l'hôpital de Bradsley Moor. Sur le chemin du retour, dans la voiture, personne ne parle. Qui s'allume la radio? Un putain de connard de conservateur parle. Représente la fédération de la police. Dit au monde entier que la police devrait être autorisée à tirer des balles en plastique sur les piquets de grève. Il s'appelle Eldon Griffiths. C'est aussi un membre du Parlement et un con qui brûlera en enfer. Kiss freine brutalement, il s'arrête, il arrache la radio, il descend et jette la radio sur le sol, il saute plusieurs fois à pieds joints dessus. Il s'appelle Kiss Lewis, il est mineur et père de deux enfants. toujours à l'écoute d'Angle Mort, dans cette lecture de David Peace, GB84. Une petite dernière extrait, hein. On déborde un petit peu, on s'excuse par avance à la causerie parce qu'on a été un peu poussé par l'émission d'avant, c'est pas notre faute. voilà, un petit dernier extrait, donc là on se situe vraiment à la fin du mouvement, au moment où la déprime gagne. Et c'est à nouveau un mineur en grève qui parle. Je ne pouvais pas me lever, je suis resté au lit, déprimé, abattu, comme je ne l'avais jamais été de ma vie. Plus de 300 gars avaient repris le travail dans la mine, on leur faisait laver le charbon. Hier matin, de gros camions sont venus chercher de la marchandise destinée aux centrales électriques de Trent-Vallée. Un piquet de grève massif les attendait, mais ils sont entrés et sortis sans problème. Cependant, ça montre que les stocks sont très bas, puisqu'ils viennent chercher du combustible ici, 15 camions géants prendront la totalité, les 7000 tonnes. Oui, on restera jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à ce qu'ils aient terminé. On criera et on poussera. On poussera et on jurera. Mais merde, j'aurais bien voulu les voir laver et transporter le charbon si on était resté solidaires. J'ai compris alors qu'on aurait pu gagner. Compris qu'on aurait pu battre cette salope et toutes ces putains de larbins. Ces brutes de la sécu et des médias. Compris qu'on aurait pu les battre parce qu'ils auraient manqué de putains de charbon. C'était aussi simple que ça. C'était aussi déprimant que ça. Je faisais des cauchemars chaque fois que je fermais les yeux. Faisais des cauchemars chaque fois que j'allumais la télé, chaque fois que j'ouvrais le frigo, chaque fois que j'allais au village, chaque fois que j'allais au foyer ou à la réunion. Au moins, le lit était chaud. Du moment que je ne fermais pas les yeux, on a frappé à la porte, c'était Jackie avec une tasse de thé. Il est plus de 9h30, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, j'ai dit, je sais, qu'est-ce que tu as, elle a demandé. Tu te mets en grève, c'est ça? File, grosse maline, j'ai dit. Je me lèverai quand je serai prêt et pas avant. Elle est venue jusqu'au lit et m'a embrassé sur le front. Joyeuse Saint-Valentin, elle a dit. Je suis un homme heureux, je lui ai dit. Je ne vous mérite pas, toi et ta mère. Non, elle a répondu. Donc tu as intérêt à te lever avant qu'on te fiche dehors. On va s'arrêter là-dessus et on vous dit à la semaine prochaine. On vous laisse avec la causerie. C'était donc une lecture, enfin une émission consacrée aux grèves de mineurs de 1984, avec pour terminer lecture d'extrait du roman de David Peace, GB84, sur l'émission Angle Mort. Et si vous voulez retrouver les titres, parce qu'on n'a pas annoncé systématiquement les titres musicaux qu'on a passés, je vous invite à consulter notre blog qu'il faut qu'on mette à jour. Là, il y a quelques émissions qui manquent, qu'on mettra à jour donc avec les titres des musiques qu'on a passées.
Rompehuelgas y por pistoleros que consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes.